Tu sais pourquoi on fait ça?
Pour caler l'image et le
son. Moi, il y a des fois où je ne l'ai pas fait. Et je peux te dire que c'est chiant. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Belgium Performance, La Discu. J'ai l'honneur et le plaisir surtout de recevoir mon ami, un ami à moi, avec qui on a grandi, joué ensemble quand on était plus jeune. C'est Thomas Brenet. Donc Thomas Brenet, joueur de rugby, qui a joué en D1 un petit peu en Belgique et maintenant qui joue à Mons et qui va nous raconter un peu son parcours. On t'écoute.
Donc effectivement, on a joué ensemble toutes nos écoles de jeunes au rugby club de Mons. Puis on a décidé de partir dans un club de D1. Puis nos chemins se sont séparés. Moi, je suis retourné dans mon club. J'ai fait psychologie du travail en master. C'était un truc qui ne me bottait pas plus que ça. Mais j'avais toujours en tête de travailler sur la psychologie du sportif. Et donc... j'ai entamé un diplôme universitaire de niveau master à Lille qui est en préparation mentale et psychologie du sport. La différence entre les deux, préparateur mental, en fait, n'importe qui peut prendre ce nom et se mettre en indépendant et pouvoir pratiquer.
Okay. Faut une formation ou genre si c'est j'ai un peu protégé. Des connaissances, parce que j'ai appris tout au long de ma carrière à faire la gestion de sportifs. Je pourrais me nommer préparateur mental.
Ouais, c'est pas protégé. Donc, n'importe qui peut se mettre en tant que préparateur mental sans avoir eu spécialement de formation. D'accord. Et la psychologie du sport, par contre, il faut avoir son diplôme de psychologie, de psychologue. Et donc, là, c'est un titre qui est protégé.
C'est universitaire, quoi.
C'est universitaire. Voilà, donc ça fait 4 ans que je consulte. Des sportifs de tout niveau. Et là vient peut-être la question de pour qui est fait la préparation mentale. Alors en fait, c'est fait pour tout le monde qui veut réaliser de bonnes performances. Bonnes performances, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu artistique, on peut penser à des comédiens, des acteurs, ça peut être dans le milieu scolaire, une défense de mémoire, des travaux, des défenses orales, etc. Évidemment, là c'est plus mon public, c'est le sportif. Qui doit faire des bonnes performances. Alors parfois, moi je rencontre des sportifs qui faisaient des bonnes performances et qui voient leur perf diminuer. Puis parfois j'ai des sportifs qui bloquent, donc ils n'arrivent plus à améliorer leur niveau et à progresser. Et puis j'ai des sportifs aussi qui ont simplement des difficultés. Alors eux, c'est pas en termes de performance, ils le remarquent plutôt dans leur comportement, et donc c'est plutôt de la difficulté dans la gestion des émotions, dans la confiance en soi, etc.
T'as vite attaqué le sujet de c'est pour qui, mais avant, peut-être définir ce que c'est réellement la psychologie du sport, parce que finalement, il y a quand même cette barrière par rapport à ce que tu amènes, c'est d'aller chez le psychologue, ouais. Et donc est-ce qu'on est malade quand on a besoin d'aller voir un psy du sport ou pas?
Pas du tout. La psychologie du sport, c'est simplement, l'idée du travail avec un sportif, c'est simplement retenir que derrière le sportif, il se cache un humain. Et tout humain a un cerveau et des capacités mentales qui parfois fonctionnent très très bien. On a tous des ressources différentes en fait. Certains ont des grandes ressources et des grandes facilités au niveau de la confiance en soi. D'autres ont des grandes ressources au niveau de la gestion du stress ou de la gestion des émotions. Certains sont moins bien équipés. Alors, on peut travailler avec ceux qui sont moins bien équipés. Et donc là, c'est plutôt je rencontre des difficultés et je vais consulter. Et puis, on peut travailler pour améliorer et augmenter les ressources qui existent déjà pour pouvoir prétendre à un niveau supérieur. Et donc, ça rejoint aussi le fait que c'est tout public. On peut avoir du niveau amateur, où là, en général, on se rend compte qu'il y a une difficulté, on vient consulter. Et puis, il peut y avoir des équipes professionnelles qui vont solliciter pour améliorer encore leurs compétences. On peut faire le parallèle avec la préparation physique. Dans le milieu amateur, on se rend compte qu'il y a des vraies difficultés au niveau physique, on va faire appel à un préparateur physique. Dans le milieu professionnel, on n'attend pas d'avoir ces difficultés. On prend un préparateur physique, point. Mm-hmm. On engage déjà le processus parce que c'est hyper important. Et si tu veux, la pyramide de la performance, elle montre qu'à la base, c'est le physique, puis ensuite on a la technique, puis la tactique, et enfin le mental. Et donc, peu importe en fait le niveau du sportif sur cette pyramide, l'aspect mental, si on prend un sportif équivalent, en face à face, dans des sports individuels par exemple, ou même des sports d'équipe, on va se retrouver à un moment donné confronté à cette difficulté de si celui qui est en face a un meilleur mental, si on a le même physique, la même technique, la même tactique, bah, c'est lui qui va l'emporter. Maintenant, effectivement, si on confronte deux équipes ou deux personnes qui ont un niveau physique totalement différent, celui qui a le meilleur physique va gagner. Donc voilà, on arrive, en fait, au plus on monte dans le milieu professionnel et au plus on a des physiques qui sont sensiblement similaires. Ouais. Un niveau technique, bah voilà, on est face aux meilleurs, donc a priori, ils sont aussi très, très développés. Et le niveau tactique, parfois on a des tactiques différentes, mais qui se valent dans le jeu. Et donc la différence, on va aller la chercher au niveau mental, quoi.
Par exemple, bah, j'en parlais sur Instagram avec pas mal de followers finalement, ouais. Parce que c'est un sujet qui a vachement animé bah, la semaine passée, qui a animé le réseau, et bah, on le voit de plus en plus. Par exemple, Romain Tamak en a parlé, donc c'est un joueur emblématique, donc évidemment ça parle un peu plus, mais ça fait partie du sport. Je pense qu'il y a Teddy Riner qui a sorti une petite interview il n'y a pas longtemps en disant que s'il n'avait pas été prêt mentalement, très jeune, jamais il aurait fait ce qu'il a fait. Mais là, on parle de sportifs de niveau. Souvent, ça revient, les sportifs de niveau. Et moi, j'avais la question. Il y a beaucoup de gens qui estiment soit ne pas devoir, parce qu'ils peuvent gérer eux-mêmes. Le niveau ne nécessite pas d'avoir cette aide mentale. Tu vois, tu joues en division 3, 4, enfin, un niveau inférieur. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour toi, tu vois ? Parce que finalement, la finalité de ton sport, c'est de t'amuser et prendre du plaisir et pas de gagner de l'argent ou une grosse médaille.
Ça revient à la question de la performance. Donc, si tu veux, le principe initial de la préparation mentale et de la psychologie du sport, c'est qu'on cherche à améliorer la performance. Et, entre autres, rendre le sportif autonome par rapport à cette performance. Donc, l'idée, c'est pas du tout d'être un gourou et de devoir être tout le temps présent et de suivre le sportif pendant toute sa carrière pour l'accompagner. Donc, l'idéal, c'est de le rendre autonome. Et d'améliorer ses perfs tout en visant son bien-être. Et donc, bah, parfois, on a des sportifs qui ne prennent plus du tout de plaisir. Moi, j'ai des parents qui viennent, qui veulent que l'enfant continue le sport, mais en discutant avec lui, bah, tu te rends compte qu'en fait, il prend plus de plaisir. Ouais. Et donc, bah, mon rôle, ce n'est pas seulement d'améliorer la performance du sportif, mais c'est aussi de voir son bien-être. Et s'il n'y a plus de bien-être, bah, dans ce cas-là, on redirige, en tout cas, on touche un mot... aux parents, et puis bah, voilà, c'est leur choix, c'est la décision aussi du sportif. Du coup, j'ai oublié la question
initiale. La vraie question, c'était bah, la légitimité. Oui, c'est pour tout le monde, mais qu'est-ce que ça peut amener à des gens qui jouent à un niveau inférieur, quoi ?
Mais,
en fait, on a... ça paraîtrait, par exemple, tu te prends la tête, quoi, tu vois ? Tu joues à un niveau inférieur, t'es pas professionnel. Quel est l'intérêt pour toi d'aller chez le préparateur mental ? Enfin, chez le... Disons psy du sport, pardon. Je me trompe entre les deux.
Je fais les deux, sauf que je peux porter le titre facilement. Mais préparation mentale, c'est plus accessible peut-être. Et ça a moins ce petit côté psychologue, difficulté, problème, etc. Mais en fait, si le sportif vise à améliorer ses performances, c'est intéressant pour lui. Si effectivement, on a un sportif qui est juste dans la prise de plaisir... il ne va pas solliciter ce suivi. Mais tout comme il ne solliciterait peut-être pas un préparateur physique ou il irait moins à l'entraînement parce que bah, pour lui, c'est juste prendre du plaisir sur le terrain. Donc, un sportif amateur peut très bien solliciter un suivi. C'est hyper intéressant pour lui parce qu'il y a des études qui montrent qu'il ne faut pas être professionnel pour voir une amélioration quand on se fait suivre par un préparateur mental. Et à un niveau amateur, le sportif peut voir ses performances nettement améliorées par la préparation mentale. Parce que y a toute la préparation de la compétition, l'amélioration de la confiance en soi, la gestion des émotions. Je suis sûr que tu connais des mecs, même à ton niveau, qui est le meilleur niveau en Belgique, qui galèrent face à la frustration, qui galèrent face à un échec, on se prend un essai, voilà, ça explose. Et si tu en as un en tête, Peut-être parce que ses comportements externes sont très visibles, mais il y en a peut-être d'autres dans l'équipe qui ont aussi cette facilité à baisser un peu les bras ou à se décourager, à se démobiliser. Et donc, bah, ça, forcément, ça permet d'être travaillé en séance, en suivi de préparation mentale. Quoi.
Est-ce que tu dirais alors que certaines fois, ça peut être plus intéressant que, par exemple, un suivi en préparation physique pour certains ? Parce que tantôt, tu parlais d'une pyramide, et pour être honnête, je pense qu'à partir d'un certain moment, ça doit être en équilibre plutôt qu'une pyramide. Mais c'est vrai que la pratique passerait en premier, puis la préparation physique et puis le suivi psycho. Quoi.
Alors en fait, au niveau amateur, je te dirais que le physique est peut-être plus important parce que c'est la première qualité qui va permettre d'améliorer son niveau. Mmh. Mais si j'ai des difficultés importantes au niveau mental, peut-être que mon meilleur physique ne sert à rien sur le terrain parce que j'arrive pas à gérer la pression du match. Et donc, si au niveau mental, j'ai vraiment des grosses difficultés, alors mon niveau physique, peu importe qu'il soit très très bon ou très mauvais, je vais quand même pas perf. Et donc ça, c'est... À quel moment on peut prioriser la préparation mentale ou la préparation physique? Ben, j'ai envie de dire que c'est quand je ressens que mes performances diminuent, non pas parce que j'ai des difficultés à suivre le rythme, mais parce que mentalement, j'explose. Quoi.
Ouais, ok. Ouais. Il y a quand même une grosse barrière encore à franchir entre le moment où... C'était en plus dans les sondages sur les stories Instagram qui disaient vraiment, je pense qu'il y avait une septantaine de personnes qui sentaient le besoin.
Ouais.
Ça veut dire qu'il avait répondu oui à la question qui devait être « Est-ce que tu as déjà pensé à avoir besoin ou te sentir mal au niveau de ta tête et avoir besoin d'un suivi ?» Et puis ensuite, la question suivante était « Est-ce que tu as passé le cap ?» Et la dernière question, c'était les raisons. Et il y en avait beaucoup, beaucoup, je pense, trois quarts des gens, même pas les trois, beaucoup plus que les trois quarts, qui passaient pas le cap d'aller voir un psy. Et donc la question c'est comment ça se passe un rendez-vous et selon toi quelles sont ces raisons pourquoi les gens ne passent pas ce cap finalement?
Alors je pense que la première raison de la non mise en action de ma pensée qui est de je devrais aller consulter, bah, c'est le fait que c'est un métier qui n'est pas très développé ici en Belgique, qui commence à prendre sa place tout petit doucement, qui est vraiment très développé dans les pays anglo-saxons. Et puis, c'est un métier qu'on met peu en avant et qui ne demande pas à être mis en avant. Mais il y a énormément d'équipes. Là, ça va être les JO. Ben, il y a énormément de préparateurs mentaux dans les staffs qui vont aux JO. Mais c'est pas des... Enfin, voilà, on ne communique pas énormément dessus. Il y a certaines personnes, nations, sportifs qui aiment que ça ne se sache pas. Est-ce que c'est parce que par pudeur ou pour ne pas montrer, par peur de montrer une faiblesse qui n'en serait pas une, parce qu'en fait, tout le monde à ce niveau-là pourrait prétendre apprendre à un préparateur mental sans que ce soit un signe de faiblesse. Et donc ça, je crois que c'est vraiment la première barrière, c'est pas l'ignorance, mais le manque d'information sur le métier et sur comment ça se passe, en fait, une prise en charge. Et donc, comment ça se passe une prise en charge? Donc moi, je procède toujours avec la même méthodologie. Le sportif vient, il a une certaine demande. Donc cette demande, ben, je l'écoute et je l'entends. Et puis ensuite, ben, il y a deux séances d'une heure d'entretien et de testing. Donc il y a certains questionnaires qui sont valides scientifiquement, qui permettent d'évaluer des compétences mentales, des habiletés mentales. Et donc, on échange sur le parcours, le choix du sport, le plaisir, les difficultés qui sont rencontrées. Il y a une auto-évaluation de mon niveau de stress, mon niveau de confiance. Est-ce que j'arrive à me mettre au bon niveau? Est-ce qu'il me faut 20 minutes avant de rentrer dans un match ou dans une compète? Est-ce que les temps morts entre les épreuves en athlée, par exemple, me posent difficulté, enfin, ce genre de trucs. Et on essaye de enfin, une fois que moi j'ai rassemblé toutes ces informations-là, ben, j'essaye de poser un diagnostic sur la difficulté principale, en tout cas sur ce qui ressort le plus et ce qui peut être la cause des, éventuellement des symptômes et donc de la raison pour laquelle le sportif vient me voir. Mmh. Parfois, le sportif vient en disant j'ai les jambes qui tremblent, j'arrive pas à rentrer dans mon match. Dès que
je monte sur le terrain, je suis déjà fatigué.
Par exemple. Mmh. Et en fait, pour lui, c'est un manque de conditions. Et c'est peut-être pas ça. C'est une difficulté à se mettre au bon niveau d'énergie et à rentrer dans le match au bon moment, quoi. Enfin, voilà. Et donc, la demande, parfois, ne correspond pas au suivi que je peux proposer, même si j'essaye toujours d'inclure cette demande parce que, bon, c'est frustrant d'arriver chez quelqu'un, de dire « moi, j'aimerais travailler ça ». Et en fait, voilà, on travaille autre chose.
Ouais.
Même si indirectement, ce travail avec cette autre chose nous permet d'atteindre des résultats de l'autre côté. Et donc, ensuite, s'installe un suivi. Donc, ce sont des séances d'une heure. On travaille en dissocié. Alors, en préparation mentale, on peut travailler en dissocié, en associé et en intégré. En dissocié, on est en cabinet, on discute ensemble et on n'est pas du tout dans le milieu du sport, même si ce sur quoi on échange, c'est le sport, c'est sur la pratique du sportif. Et puis ensuite, le sportif, je lui demande de travailler en associé, donc plutôt sur le terrain, qu'est-ce que je fais, et parfois en intégré, donc là, on est vraiment au cœur de l'entraînement ou au cœur de la compète.
Donc il a des entraînements, en fait.
Et il y a des entraînements, ouais. Et c'est pour ça que les séances commencent à s'espacer, parce que avant d'avancer dans les outils, avant de pouvoir faire un feedback sur les différents outils qui sont mis en place, il faut que le sportif ait pu les utiliser, se les approprier, et pouvoir dire, en revenant vers moi, me dire « mais ça, j'aime pas, ça fonctionne pas », ou alors « c'est top, je me sens mieux, pourquoi, ça devient automatique, etc. » Ouais.
Mais avant de parler de tes outils, donc on reviendra plus tard à ça. Donc ceux qui nous écoutent, vous allez devoir attendre un petit peu avant d'avoir les vraies astuces. Mais j'aimerais bien savoir un petit peu tes plus belles victoires en tant que psychologue du sport. C'est-à-dire, moi en tant que préparateur physique, des fois c'est super simple. Juste recevoir un message d'un athlète qui se rend compte qu'il a progressé et que c'est grâce à tout le travail qu'on a fourni ensemble. Pour moi, ça, c'est une victoire. Il n'y a pas que les performances réelles sur le terrain, même si c'est ce qu'on attend. Mais dans mon processus, il y a beaucoup plus de choses dans les vrais suivis que juste performer sur le terrain. Et moi, j'adore aussi que l'athlète se rende compte de comment il travaillait avant et comment il travaille maintenant et ce que ça lui fait sur son corps, savoir qu'il se sent beaucoup mieux, qu'il a moins mal, avant de voir tous les résultats d'explosivité, puissance, etc.
Alors, c'est toujours hyper valorisant d'avoir des athlètes qui reviennent et au fur et à mesure des séances, de voir qu'ils adhèrent totalement. Et ça, d'ailleurs, c'est un des premiers critères. Donc moi, je reçois beaucoup d'ados, pré-ados. Donc la démarche, c'est souvent les parents qui la font. Et dans ce cas-là, je travaille pas avec l'ado ou l'enfant. Si lui ne comprend pas la démarche et n'est pas motivé en fait, à travailler.
C'est-à-dire si c'est ses parents qui...
En général, c'est quand même les parents qui font la démarche parce qu'à cet âge-là, c'est rare qu'on puisse engager ce genre de choses. Mais si l'enfant n'accroche pas et que je vois qu'il n'a pas envie d'être là, j'arrête tout de suite. Et donc, ce qui est hyper valorisant, c'est de voir ces enfants ou ces ados... qui commencent à se prendre au jeu. Donc, ils arrivent la première séance, ils sont un peu...
réticents.
Réticents, voilà. Merci. Au fur et à mesure de la séance, je les vois se détendre et puis ils demandent à revenir. Donc, ça, c'est déjà une grosse victoire. De parvenir à faire comprendre l'utilité et que eux puissent saisir que c'est vraiment pour eux qu'on bosse ensemble. Et puis ensuite, ce qui est toujours super chouette, c'est de voir que j'ai des nouveaux sportifs qui viennent de par le bouche à oreille. Alors, j'ai rarement des sportifs qui me prennent dans leurs bras, qui me remercient, etc. Quoi. Pas spécialement, parce que je suis très pudique. Mais en tout cas, je vois qu'ils sont contents du travail qu'on a fourni ensemble. Parce que il recommande. Et donc ça, je crois que c'est une des plus belles choses qui peut arriver. Après, voilà, voir... parfois, les sportifs viennent avec des vidéos d'eux. Je pense à certains tennisman. Ils sont filmés, ils montrent leur comportement sur un match. Et puis, je vois leur évolution. Et puis, on revoit une vidéo d'un match. Et waouh, tu vois tout de suite. Alors, généralement, c'est la gestion des émotions et de la frustration, les doubles fautes, etc. Et donc, là, c'est vraiment hyper, hyper chouette de voir cette évolution, quoi.
Est-ce que tu gères différemment des sportifs de sport individuel ? Parce que là, tu viens de me parler du tennis et j'ai eu ce petit truc. Et les sports collectifs ?
Alors, oui et non. Non, parce que, pour l'instant en tout cas, je ne fais que de la préparation mentale en individuel. Et donc, je travaille avec le sportif pour lui-même. Maintenant, il y a de la préparation mentale collective, donc qui est vraiment orientée sur le collectif, la création d'un groupe, observer les valeurs, les dégager, trouver l'identité d'un groupe, etc. Tout ça, c'est hyper important. Mais quand je travaille en individuel, en fait, je travaille sur les habiletés mentales individuelles du sportif qui vient, que ce soit en sport co ou en sport individuel. Maintenant, effectivement, quand on est en sport collectif, il y a plus de choses qui ne dépendent pas du sportif, puisque il y a tous ses coéquipiers. Et donc, on tient compte, évidemment, de ça dans les séances, dans les échanges qu'on peut avoir. Mais on essaye toujours d'agir sur ses comportements à lui, de ce qui dépend de lui. Et donc, comme on est en séance individuelle, on se focus sur les comportements individuels du sportif qui vient.
D'accord, ouais.
Maintenant, ce qui est envisageable, et j'ai peut-être un projet qui va se mettre en place avec un club, c'est de faire des séances collectives, mais en fait, on appelle ça de la sensibilisation à la préparation mentale, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sportifs dans la salle, et on travaille individuellement, mais avec... Enfin, chaque sportif va travailler individuellement, avec un groupe autour qui reçoit les mêmes infos en même temps, qui va réagir différemment à ces infos et dans les échanges qu'on pourrait avoir. Et donc ça, c'est aussi un axe de travail qui est intéressant.
Est-ce que tu as déjà fait ou tu vas mettre en place ?
Non, je ne l'ai encore jamais fait, mais ça se fait.
Ouais.
Je suis en discussion avec un club pour le faire.
Ok, c'est pas mal ça. Ouais, tu vas peut-être avoir ce frein, vu qu'il y a du monde autour au niveau de la... libération, on va dire, tu sais, des joueurs ou des athlètes que tu as.
En fait, je l'ai déjà fait, je l'ai pas déjà fait. Donc, j'aide une sportive qui joue au basket. Elle fait son mémoire là-dessus, donc elle m'a demandé un coup de main. Et donc, je l'ai fait avec deux fois quatre joueuses de manière séparée. Donc, voilà, c'est déjà cette notion de groupe. C'est une autre dynamique qu'en individuel. Donc, voilà, la sensibilisation à la PM, ça peut être avec 20 joueurs en face de soi. Mais l'idée, ça reste la même. J'ai pas peur de l'animation, en tout cas, de groupe, quoi.
Ok. Ça me fait penser, en parlant de groupe, dans l'interview de Ntamack, il disait qu'à Toulouse, ils n'avaient pas de quelqu'un. Ils n'avaient personne, apparemment. Donc pendant sa rééducation, il a vu quelqu'un. Et il disait que ça l'avait énormément aidé. Selon toi, c'est quoi le frein ? Soit qu'il n'y ait personne dans les clubs, mais je serais étonné que dans les clubs professionnels, ils n'aient pas quelqu'un. Et puis, encore une fois, je reviens là-dessus sur Instagram. Des gens m'ont dit qu'il y en a dans le club, mais personne n'y va. Bon, là, je parle rugby, donc je sais très bien c'est quoi le frein. C'est qu'on est dans un sport très... c'est un sport de contact où il faut être fort, jamais montrer qu'on est faible. Il y a un peu de trop ou non, pas trop, mais il y a un peu beaucoup de testostérone. Et montrer que tu ne vas pas bien mentalement, c'est de montrer tes faiblesses à tout un groupe. Donc, j'imagine... qu'il y a quand même, encore une fois, une barrière difficile à passer. Mais toi, en tant que préparateur mental, deux questions. Qu'est-ce que tu dirais aux athlètes qui veulent le faire mais qui n'osent pas passer le cap ? Et ensuite, comment tu réussirais à rompre ce cycle négatif ?
Ouais. Mais je pense que un des facteurs qui fait que les athlètes ne viennent pas, c'est sans doute la collaboration avec les coachs et le staff de manière générale. Tu vas avoir des coachs qui vont être très dans l'émotionnel et Ben, un bon joueur, c'est le mec qui met son cerveau au vestiaire et qui va jouer avec ses tripes, quoi. Mm-hmm. Sauf que c'est impossible. Ton cerveau est toujours bien là et c'est impossible de se dire je l'éteins et j'oublie.
Et t'en as besoin.
Et t'en as besoin pour jouer. Et donc, si t'as un coach qui part dans cette optique-là et qui n'est pas convaincu par l'utilité de l'APM, forcément, dans ses messages et de manière indirecte, il va faire comprendre aussi à ses joueurs que c'est pas nécessaire. Ouais. Donc, je crois qu'il y a vraiment une collaboration. Si t'as un coach qui adhère à 100% à la préparation mentale, forcément, il va peut-être donner plus de place à cette dimension-là. Peut-être même qu'il va essayer lui-même de l'intégrer sur conseil du PM. Mais il va peut-être inviter ses joueurs aussi à y aller. Alors, on va avoir des coachs au début qui vont sans doute remarquer certaines choses chez certains joueurs et qui vont leur suggérer d'aller le voir, le préparateur mental. Et puis, petit à petit, je crois que c'est important de se rendre compte que tout le monde en a besoin. Enfin, tout le monde en a besoin, à haut niveau et dans le niveau amateur aussi, mais en tout cas, ça peut être utile à tout le monde. Un des freins, c'est de ne pas savoir vers qui se tourner.
Non, et d'ailleurs, ça, c'était donc une question qui revenait souvent. Il y a beaucoup de gens qui disaient, j'ai pas trouvé. Parce que c'est pas facile de trouver un bon préparateur mental, parce que tu dois quand même donner ta confiance. Tu dois t'ouvrir déjà émotionnellement. Donc souvent, si tu vas, c'est que ça va pas bien. Parce que pour le moment, souvent, ces situations-là, c'est tu vas pas bien, donc tu dois parler à quelqu'un de quelque chose qui tient énormément à cœur. Donc il faut que ce soit la bonne personne, c'est pas simple. Et comme tu dis, c'est pas très très développé. J'en connais pas moi énormément en Belgique. Ben, pour être honnête, je te connais toi. Je sais que quand j'étais à l'université, on avait un suivi en tant qu'étudiant. Et il y avait... j'imagine que moi, on est dans le sport, parce que moi, je suis beaucoup investi, donc c'est plus simple. Plus ça doit être dur de trouver la bonne personne. Comment trouver la bonne personne ? Je veux dire, toi, t'es compétent, mais ça tombe... tu conviens pas à tout le monde.
Dans le travail avec l'humain, de toute manière, il faut que ça matche. Et si la personne matche pas, c'est... Ça ne veut pas dire que l'un est mauvais ou l'autre est mauvais, c'est juste une histoire de feeling. Maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, je suis incapable de dire combien il y a de préparateurs mentaux en Belgique. Je suis incapable de dire dans cette région-là, il y en a un, deux, trois. Et donc, trouver le bon, c'est compliqué. Je crois qu'en trouver un, c'est déjà bien.
Il n'y a pas des signes ? Ouais, déjà, un, c'est déjà bien, mais il n'y a pas des signes un peu pour déjà dire que c'est un bon préparateur mental, que c'est pas un gourou ou que...
Non, je pense que dans la démarche, les gens qui ont tendance à se mettre énormément en avant, qui parlent beaucoup d'eux, qui parlent pas assez peut-être du sportif ou de ce qu'ils font, mais qui ont tendance à se mettre eux en avant.
Ouais, moi j'ai déjà reçu
ce sont des signes.
Des demandes sur les réseaux, par exemple, de mecs qui m'envoient des messages en mode... ils font du marketing, quoi, tu vois, des préparateurs mentaux qui font du marketing et qui me disent j'ai entraîné X athlètes qui ont X médailles, est-ce que toi tu veux aussi en profiter, etc. Tu vois, et je trouvais ça horrible en tant qu'athlète d'imaginer que je puisse être finalement une médaille pour lui, tu vois, même si je m'aligne, il faisait peut-être bien son boulot, mais donc pour lui c'était me vendre en tant que, si jamais j'en avais une médaille pour quelqu'un d'autre, quoi, tu vois.
Moi, je fais ça en indépendant complémentaire, donc je ne cherche pas spécialement à développer ma pratique plus que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je me satisfais très bien de ce que je fais. Et si petit à petit, de manière naturelle, ça augmente, tant mieux. Mais voilà, il y en a qui veulent vivre de ça en tant qu'indépendant.
Qui veulent vivre de ça.
Et donc, forcément, ils doivent aussi faire un peu de pub et se montrer. Et pour moi, la nuance, elle est assez compliquée à trouver. Le mec veut faire sa pub et en même temps, en faisant sa pub, il faut, je pense, rester humble. C'est un métier de l'ombre. Et quand on cherche à se mettre trop en avant, pour moi, c'est un critère de...
Rédhibitoire,
c'est un red flag.
Ouais, c'est plutôt ça. Quels sont les signes des arnaqueurs? Comment on les reconnaît, ceux-là?
Je dirais pas que c'est des arnaqueurs. Mais pour moi, ils ne travaillent pas au service du sportif, ils travaillent pour eux, peut-être pour leur gloire, et ça, ce n'est pas intéressant.
D'accord, ouais. Est-ce qu'avoir un diplôme, déjà, c'est quand même une valeur sûre ?
Je pense que le diplôme, de toute manière, est toujours un gage de formation, peut-être pas de compétences, mais de formation, et ça peut être rassurant, évidemment. Ici en Belgique, il y a une formation qui se fait à Louvain-la-Neuve. Moi, je l'ai fait à Lille. En France, donc, je crois qu'il y en a 3 ou 4, en tout cas des formations universitaires. Ouais. Et puis, il y a plein de petites formations qui sont pas reconnues. Donc voilà, c'est un peu à l'appréciation de chacun. Est-ce que je vais vers quelqu'un qui a un diplôme universitaire qui est reconnu et qui permet de sans doute s'assurer que la personne a une bonne formation, ou est-ce que je vais chez quelqu'un qui a pas de formation et qui me vend du rêve de par sa démarche? Voilà, ça c'est...
Ouais, c'est compliqué.
C'est compliqué de pouvoir le dire. Et encore une fois, c'est un métier de l'ombre. Et donc, pour moi, le meilleur préparateur mental, c'est celui qui reste dans l'ombre et qui ne cherche pas à se mettre dans la...
C'est là pour l'athlète, quoi.
Voilà.
C'est là pour faire passer l'athlète d'une situation A à une situation B, qui est mieux, j'imagine, la situation B. Peu importe si on gagne quelque chose ou pas après, quoi.
Ouais. C'est ma vision.
Ouais.
C'est ce que je pense.
C'est bien. Si jamais vous n'avez pas de préparateur mental, vous en cherchez un. Bien évidemment, Thomas est disponible. Voilà. Il travaille à distance.
Ouais. Pour les gens. Il y a certaines contraintes à distance. J'aime bien de rencontrer au moins une fois l'athlète
en présentiel
pour pouvoir échanger au moins de vive voix et pouvoir se cerner aussi, parce que à distance, c'est pas toujours évident de ce feeling dont on parlait tout à l'heure. Mais je crois que voilà, il se fait quand on se rencontre. Et puis les autres contraintes, c'est le travail sur les outils. Moi, j'envoie des documents, il faut qu'ils soient imprimés à l'avance par l'athlète, etc. Donc si c'est en présentiel, moi je fais tout ça. À distanciel, ça demande un peu plus d'engagement de la part
de l'athlète, quoi.
De l'athlète. Ouais. Mais c'est tout à fait envisageable.
Ouais. Ok, on sait jamais. Enfin, j'espère qu'il y a des gens qui seront à distance et seront intéressés. C'est le moment de parler de tes outils. Est-ce que tu aurais 3 astuces, 3 tips qu'un athlète, comme par exemple pour moi, prenons mon cas, comme ça peut parler plus clairement, avant une compétition ou pendant un entraînement, si tu as 3 trucs que je pourrais appliquer grâce à ce podcast. Donc, ce que tu vas dire maintenant, moi, je vais, par exemple, je vais en tournoi, en compétition mercredi. Comment je pourrais appliquer 3 choses pour changer et améliorer ma semaine d'entraînement?
Alors, ce que tu demandes, c'est hyper compliqué parce que les outils sont toujours travaillés avec l'athlète et donc ça demande quand même une réflexion de la part de l'athlète. Maintenant, je vais donner des pistes et des choses intéressantes. La première chose, c'est le premier outil que je donne, peu importe ce que l'athlète vient demander, c'est la respiration. Le travail sur la respiration, il permet de gérer le stress. Alors forcément, on met un certain rythme, etc. C'est de la respiration abdominale. Il permet de se dynamiser. Donc quand je me sens pas prêt à monter sur le terrain, ça me donne de l'énergie. Là, on est sur un autre type de respiration. Ça me permet de travailler sur ma concentration. Le fait d'avoir des pensées qui traversent mon esprit, d'être capable de revenir directement sur ma respiration et donc de me concentrer sur mon corps et chaque fois faire l'effort de revenir sur cette concentration-là. Ça permet de travailler la gestion des émotions. Quand un mec est super énervé, en général, il respire pas calmement. Il est plutôt dans des souffles courts, etc. Donc, si je travaille sur cette respiration-là, je vais permettre d'amener un certain apaisement. Et donc, cette respiration abdominale ou alors plutôt courte pour me dynamiser, elle est hyper facile à mettre en place. Elle demande du travail parce que si je ne la travaille pas, le jour où j'en ai besoin, je ne vais peut-être pas provoquer la relaxation ou le dynamisme dont j'ai besoin.
Comme on a dit, c'est un entraînement.
C'est un entraînement, ça se travaille à l'entraînement. Si en compétition, je sais que j'ai le temps de faire de la respiration abdominale dans la voiture, mais que je ne me suis jamais entraîné dans une voiture, je ne vais peut-être pas réussir à me détendre. Et donc voilà, ça demande vraiment un entraînement spécifique. Donc ça, c'est le premier outil. De base, parce que ça met vraiment, si tu veux, c'est les fondements de plein d'autres outils.
D'accord, ouais. Donc en plus d'être hyper accessible pour le sportif, déjà, je peux respirer, je pense que...
C'est un truc qu'on fait tous.
Ouais, voilà, c'est ça. Ceux qui ne savent pas le faire, souvent, ils sont morts.
Exactement.
Et avant de passer à l'outil suivant, pour plus de concret, un exercice de respiration que je pourrais faire mercredi.
Alors, ça,
enfin,
ça
tu vois, si t'as genre, est-ce que je dois inspirer 3 secondes, expirer, etc.
Ça dépend ce que
vraiment
tu recherches.
Vraiment le plus.
Ouais, ça dépend ce que tu recherches. Si l'idée c'est de gérer les émotions ou de gérer le stress, de pouvoir amener un certain calme et une sérénité. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle le 3-6-5.
Mm-hmm.
Donc c'est 3 respirations, pardon, c'est 3 fois par jour, 5 respirations par minute. J'ai n'importe quoi.
Réfléchis, pose-toi.
3-6-5. Donc c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Et on met un certain rythme, donc c'est sur ces 10 secondes par respiration,
ouais.
On va demander au sportif d'inspirer pendant 4 secondes et puis d'expirer pendant 6 secondes.
C'est pas de blocage entre les deux ?
Aucun blocage, aucune rétention
donc,
d'air.
4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, 6 fois
ça
pendant
minute.
5 minutes.
Pendant 5 minutes. Il y a une application qui s'appelle RespiRelax Plus.
Ah, tu m'avais déjà envoyé, je crois.
Ouais, je t'en avais parlé une fois. Et donc, on va dans les réglages, on paramètre ça. Et puis, si on le fait 3 fois par jour, en fait, on arrive à retrouver une respiration abdominale. Alors, cet exercice, il faut le faire en respiration abdominale. Donc, en rentrant le ventre quand je souffle et en gonflant le ventre quand j'inspire. Ce qui n'est pas facile. Ouais, c'est pas facile pour énormément de sportifs parce que on a souvent tendance à avoir une respiration inversée où quand j'inspire, je viens gonfler la cage thoracique et donc ça demande du travail.
D'accord. Ça, donc là on est terrible, on est dans le concret, c'est trop bien. Maintenant je pousse un peu le truc. Est-ce que je peux me dire si j'ai un peu progressé là-dessus, que j'ai fait 3 fois par jour dans des situations calmes et contrôlées, commencer à essayer de le faire avant mon entraînement ou tu sais, je fais une VMA par exemple. Est-ce que entre mes 2 blocs de 6 sprints, je peux le faire ?
Alors,
l'idée. Je veux dire vraiment pour augmenter la difficulté ou se retrouver dans du concret, quoi.
L'idée de cette respiration, c'est de pouvoir gérer le stress ou une émotion de peur, de frustration, etc. Mais c'est toujours dans l'idée de juste après, je peux me redynamiser. Parce que normalement, alors si tu as déjà fait le test ou si les sportifs qui nous écoutent font le test, après ces 5 minutes, il y a vraiment une sensation de détente, parfois une sensation de fatigue aussi. Et donc, si je le fais juste avant de monter sur le terrain, ce n'est pas hyper, hyper conseillé. Par contre, si je le fais 20 minutes avant de monter sur le terrain et je sais que le quart d'heure qui suit, je peux me redynamiser, me remettre au bon niveau d'énergie, pour être dans mon match, en fait, dans ce cas-là, je peux le faire.
Donc ça, c'est plus avant une grosse échéance, plusieurs heures avant, alors.
Ça peut être une heure, ça dépend du sport.
Mais je t'avoue que je l'avais fait à l'époque, je pense que c'était avec la finale à Monaco,
ouais.
On en avait parlé,
mm-hmm.
Et je l'avais fait, je pense qu'on commençait à jouer à 13h, 15h, je ne sais plus trop, 15h, et je pense à midi, je l'avais fait. Mm-hmm. Et je l'avais fait les jours un peu avant,
ouais.
Plusieurs fois, ça m'avait pas mal aidé.
Mm-hmm. Ouais, en fait, au plus tu vas t'entraîner, au plus la détente, elle devient automatique. Et donc, t'as pas besoin de faire les 5 minutes pour ressentir déjà la détente, l'apaisement, la boule au ventre qui se dissipe, le stress, en fait, finalement, qui s'en va. En tout cas, le stress physique.
Ouais.
C'est un outil physiologique, la respiration, qui permet de répondre efficacement à un stress qui serait physiologique. Maintenant, si tu as un stress qui est plutôt cognitif, des pensées, et si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer, etc. Cet outil permet aussi de le travailler, puisque je vais me concentrer vraiment sur mon corps. Et donc, normalement, je suis pas en train de penser à autre chose. Et c'est pour ça que ça demande aussi beaucoup d'entraînement, parce que je vais avoir des pensées d'imaginer ce qui peut mal se passer pendant la compète, etc. Et si je me suis entraîné à cette flexibilité qui est de revenir sur mon corps, et je sais pas, si tu imagines juste ton ventre qui se gonfle et qui dégonfle, ça me permet de ne plus penser, en tout cas d'éviter de m'accrocher à ces pensées. Et donc, ça fait aussi diminuer l'anxiété cognitive.
Ok.
Maintenant, tu me parlais de tes séries de sprint, enfin je sais plus ce que...
Ouais, c'était l'idée, c'est est-ce que ça s'introduit dans un entraînement physique ?
Tu peux essayer de souffler plus longtemps pour vite ramener, donc diminuer les battements du cœur, diminuer la respiration, enfin l'appareil cardio.
Par exemple, nous, à la mi-temps entre chaque match, et maintenant c'est un processus qu'on a mis en place et je pense toutes les équipes le font, ça se voit assez souvent.
Respiration collective.
Ouais, voilà. Ça, je sais pas si on est dans la même discussion, mais on fait une, deux ou trois respirations, ça dépend des moments, et on le fait aux entraînements aussi, parce qu'on a appris que, enfin, on a remarqué, évidemment, si on le fait aux entraînements, tout le monde comprend que c'est un signe aussi, de c'est le moment où tout le monde arrête de parler, ouais. Et on sort de ce qu'on vient de faire, quoi, tu vois.
Ouais. Alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est un outil qui permet de travailler aussi la concentration, et ici, c'est clairement ça, on va tous ensemble se refocus et se mettre sur le même rythme. Alors cette respiration, si elle est, je sais pas, vous en faites 8 ou 10 tous ensemble, ça peut être long, mais ouais. Dans ce cas-là, on pourrait être sur de l'apaisement, on revient au calme. Si on en fait 2-3, on n'est pas dans cette idée de revenir au calme, quoique, si on le travaille efficacement, ça peut déjà provoquer une certaine
détente. On est environ à 3. Le rythme des respirations dépend. Au début, tu sais, on essayait de s'imposer un rythme sur le capitaine prend un rythme et tout le monde le fait. Avec d'autres équipes, c'était une seule fois. Ça dépend vraiment de tout le monde. Moi, je suis plus du parti de chacun respire comme il a envie, mais c'est juste on essaye de suivre. Parce que par exemple, moi, après, à la mi-temps, ça m'arrive, je suis complètement cramé. Faire 3 respirations forcées sur le rythme de quelqu'un, c'est pas possible, tu vois.
Ouais.
Est-ce que en dehors de la, enfin, quel serait l'idéal selon toi de ces respirations? Est-ce qu'on fait pas un peu n'importe quoi? Est-ce qu'on s'est pas trop approprié la méthode?
Non, c'est intéressant pour autant que ça ait du sens pour tout le monde. Si c'est faire ça pour faire ça, parce qu'on m'a dit que c'est pas intéressant.
Ouais, c'est vrai que tu vois que des fois il y a des mecs qui sont là,
ouais.
Ils sont là et ils regardent le sol, quoi, tu vois.
Par contre, si on se dit que pendant ces respirations, alors on se concentre déjà sur le fait de souffler, d'évacuer un petit peu la pression qu'on a pu accumuler, les tensions, et qu'on se concentre ou qu'on a un leitmotiv ou 3 ou 4 mots, des objectifs peut-être particuliers pour un match. Si on fixe ça et qu'on se dit que ça se fait pendant la respiration, alors ça devient intéressant. En fait, tous les comportements que tu vas mettre en place avec un préparateur mental, ils sont intéressants que si on met du sens derrière. S'il n'y a pas de sens, tu prends une routine d'un buteur,
ouais.
Ou au foot, un mec qui va tirer le penalty. Si jamais il n'y a pas de sens derrière ses gestes, derrière ses respirations, derrière, on connaît les bigards, etc. S'il n'y a pas de sens, alors c'est pas intéressant. C'est même plutôt perturbateur parce que le sportif, s'il oublie de le faire ou s'il se dit « merde, j'en ai fait que 2 au lieu de 3 », en fait, il n'est plus en train de penser à sa perf, il est en train de penser à sa routine qui n'est pas une routine, c'est plutôt des gris-gris. Et donc là, on perd du sens et donc ce n'est pas intéressant. Donc c'est vraiment ces respirations que je vais mettre en place avec mon équipe, mais il faut qu'elles aient du sens et donc ce sens qui soit expliqué et qui soit partagé par tous. Et ça peut être un processus décisionnel de groupe. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là de manière individuelle, quoi.
Ok, ouais. C'est intéressant.
En tout cas, c'est un moment qui est très important pour rassembler et pour que tout le monde soit peut-être dans une position d'écoute.
C'est surtout ça que j'avais remarqué. Quand on le fait à l'entraînement, comme je t'ai dit, c'est vraiment ce côté de couper. Parce que souvent, tu sais, bon, on a fait une action, tout le monde est un peu éparpillé sur le terrain, on essaye de se réunir, on essaye que tout le monde revienne en trottinant, mais c'est vrai que t'en as qui discutent de l'action qu'ils ont faite, ils veulent clarifier les choses, et des fois il faut pouvoir arrêter ça. Et quand on fait cette respiration, sur principalement à 7, hein, où ça nous arrive, clairement c'est le signal d'alarme où on passe à autre chose, on se reconcentre, quelqu'un va discuter, quelqu'un va ajouter quelque chose, on boit. C'est vrai qu'on avait mis le protocole de respiration, puis seulement on pouvait boire, parce que sinon c'est dans l'autre sens, t'en as qui se mettent à boire, donc ils sont pas en train d'écouter, ils parlent, etc. Peut-être que c'était pas le bon truc, mais à l'entraînement, je trouvais que c'était vraiment, comme tu disais, séparer les choses, quoi.
Ouais. Il n'y a pas de bon ou de mauvais truc, en fait. Si vous décidez d'une routine de mi-temps, alors déjà, c'est excellent, Parce que tu regardes des sportifs amateurs, la mi-temps en général, tu as Michel qui parle à sa maman, tu as Truc qui discute de l'action précédente, tu as le coach qui essaye de parler à 3-4 gars et le deuxième coach qui est en train d'essayer de rassembler le groupe. Enfin, ça ressemble à rien.
Il n'y a pas de communication enfin réelle, quoi.
Ouais, c'est...
pas de contenu.
Alors c'est compliqué après de mettre tout le monde, d'aligner tout le monde sur les mêmes consignes si chacun reçoit ses petits machins et... Et donc,
c'est vrai que nous à 15, on est. C'est vachement. Ouais. Et puis t'en as qui mangent parce qu'on a les bonbons pour reprendre de l'énergie. T'en as qui sont complètement cramés, donc ils sont couchés par terre ou qui marchent un peu plus loin. Ouais. Le kiné qui intervient.
Les remplaçants qui viennent d'apprendre qu'ils vont
donner 2-3 conseils, machin. Voilà.
Et donc là où c'est excellent aussi, ce que vous faites, c'est que vous le travaillez à l'entraînement. Et c'est hyper rare de travailler la mi-temps à l'entraînement, le début de match à l'entraînement, l'échauffement de match. À l'entraînement. On s'entraîne
ça, oui,
jamais
ça,
à ça.
Ça, j'avais appris aussi. On s'entraîne à s'échauffer et on s'entraîne à s'entraîner, tu vois.
Ouais.
Donc, et ça, c'était avec Monaco, je crois. On apprenait par cœur l'échauffement pour que cette période, en fait, il n'y ait aucun moment perturbateur où tu te dises merde, je ne sais pas quoi faire et que tout le monde se regarde dans les yeux sur un nouvel exercice que le coach. Ça, jamais. Enfin, ça, c'est mon expérience. Si un entraîneur décide de changer un exo pendant l'échauffement, il faut qu'il soit vraiment très, très fort avec sa team, quoi.
Ouais.
Parce que j'ai déjà vu des échauffements où le coach, parce que lui, il s'énerve parce qu'il n'a pas le résultat attendu. Les joueurs commencent à perdre confiance, à perdre de l'attention, donc de l'énergie mentale et physique. Et puis, ton truc est totalement déconstruit, quoi.
Nous, ça arrive... Enfin, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où le coach débarque avec un exercice mais qu'on ne fait jamais à l'échauffement. Et puis, 3 minutes après, mais il s'énerve et il abandonne parce qu'en fait, ça donne rien. Les mecs doivent seulement capter les consignes, appliquer. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, l'échauffement, la mi-temps, ben, c'est des moments en fait, hyper importants à travailler. T'imagines un athlète qui ne travaille pas à la chambre d'appel.
Ouais, j'imagine très bien.
Il est tout seul. Et, ça se travaille. Et c'est là aussi que le préparateur mental intervient. C'est de savoir qu'est-ce que je fais, avec quel objectif. Est-ce que mon objectif, c'est... D'habitude, je suis stressé pendant ces moments-là. Ben alors, je vais amener des outils pour diminuer le stress et peut-être améliorer la concentration sur les mouvements spécifiques. Est-ce que mon objectif, c'est au contraire de me dynamiser parce que je me sens mou à ce moment-là. Enfin, tu vois, ça se travaille vraiment de manière individuelle. Et dans le collectif, mais c'est de se régler pour que chacun sache ce qui va se passer, à quel moment je vais avoir 30 secondes, une minute pour échanger et parler de ce que j'ai envie, et à quel moment on est tous concentrés sur la consigne du coach.
Donc c'est bien que l'entraînement, l'échauffement par exemple, soit routinier.
Ouais.
Cependant, en tant que préparateur physique, j'aime bien que tu aies un échauffement préparé et une bonne routine qui te permet de t'entraîner, que tu connaisses. Le seul souci que j'affronte, c'est l'habituation. Et surtout mental, ça veut dire qu'après on le fait pour le faire.
Ouais.
Et donc on n'est pas prêt mentalement parce que finalement tu as pris l'habitude de faire ton skipping tap fest classique et que c'est toujours le même depuis 6 mois. Et physiquement tu n'es pas prêt non plus parce que tu le fais sans intention, quoi.
Alors la routine, elle existe et ça ne veut pas dire qu'elle doit rester la même tout le temps. Tu peux en changer, tu peux apporter des modifications, etc. Mais toujours en la travaillant en entraînement. Si la semaine avant ton match, tu as travaillé sur tes 2-3 entraînements, une nouvelle routine, mais ce n'est pas le jour du match que tu as découvert. Et donc, tu peux réamener une certaine concentration, une certaine implication, un engagement de la part des joueurs parce que c'est une nouvelle routine, tout en l'ayant travaillé à l'entraînement. Et c'est ça qui est important. Tu pourrais garder ta routine d'échauffement sur les 2 matchs qui arrivent, tout en, à l'entraînement, commençant à initier autre chose pour pouvoir... 2 semaines après, dire ok, on applique celle-là.
Et surtout bah, pour le coach, en plus, lui, il se rend compte de la réalité, de ce qu'il veut proposer.
Ouais. Il peut réguler, il peut.
Il voit que son exercice qu'il avait imaginé extraordinaire, bah, il donne rien, donc tu t'adaptes.
Exactement.
Pour le dimanche, être dans le confort.
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième astuce que tu pourrais donner à...
Ouais.
Mais tantôt, t'en as parlé, je te lance. Sur le. T'es dans le couloir d'appel, tu vas monter soit sur le terrain, sur ta discipline, soit tout seul ou en collectif. Il y a toujours ce moment où, exemple plus concret, hein, rugby à 7, je crois qu'on doit arriver, on rentre au vestiaire 10-15 minutes avant. Donc on a quand même 15 minutes entre le moment où on rentre dans le vestiaire, on met les maillots, on se fait nos checks, on s'encourage, etc. On a nos petits rituels individuels. Je sais pas, il y en a qui font plein de trucs. Hein. Puis on va et on doit être 5 minutes avant, je crois, dans le couloir. Et là, c'est la même chose. Souvent, on arrive, chacun boit un coup, discute, se fait un check, encore une fois. On a un petit discours collectif. Et après, on se met dans la file et on a quoi, 1 minute 30 à attendre avant de monter sur le terrain. Donc, tu vois, ce moment, il est des fois un peu long, des fois plus long. Comment, en tant que joueur en individuel, encore une fois, je peux gérer ce moment? Parce que c'est là que vont arriver les pensées, soit négatives, soit positives, soit l'excitation remonte, elle redescend trop vite.
Mais tu viens de donner une des pistes. C'est là que les pensées négatives peuvent venir. Bah, l'idée, c'est de travailler sur son discours interne. Et donc, ça serait de anticiper et les mots-clés que je peux me dire. Et ils sont totalement individuels et totalement propres à chaque sportif. Parce que toi, tu vas peut-être te dire un truc qui ne va pas du tout parler à un autre. Et donc, et en plus, toi, tu as peut-être besoin de mots qui vont te permettre de te concentrer, alors qu'un autre va avoir besoin de mots qui vont lui donner confiance, et un autre va avoir besoin de mots qui vont lui donner de la combativité et de l'agressivité.
Donc là, tu définirais 3-4 mots.
Et donc, l'idée, ça serait de... Bah, dans un premier temps, c'est d'identifier quelles sont les pensées négatives qui me viennent régulièrement. Putain, si jamais je rate...
mes plaquages encore.
Mes plaquages, tout à l'heure j'en ai raté un, comment ça va se passer, et si jamais. Et donc, d'identifier ces pensées qui peuvent venir, l'émotion qu'elle va provoquer, en fait. Je sais pas moi, si c'est punaise, de toute manière, j'y arrive pas ou j'y arriverai jamais, ben, ça peut être lié à de la frustration, une baisse de confiance en soi, etc. Et puis, ben, de se dire, ok, qu'est-ce que je peux me dire pour contrer cette pensée négative, mais pas la remplacer. On ne sait pas la remplacer. La pensée négative, elle vient.
Une fois qu'elle est là, elle est passée.
Ouais.
Elle est passée par ta tête, quoi.
Tu rates un plaquage, la pensée négative, elle peut naître dans ta tête, quoi. C'est incontrôlable. Par contre, ce qui est contrôlable, c'est... Je sais que j'ai souvent des pensées négatives quand je rate mon plaquage, et donc... À chaque plaquage raté à l'entraînement et en compétition, mais il faut le travailler à l'entraînement, je sais qu'à chaque plaquage raté, dès que je le rate, je me dis « tu sais le faire, t'inquiète, continue ». Alors, je sais pas, on réfléchit avec le sportif à des mots qui lui parlent, et je pourrais te proposer des listes, mais... Et donc, le temps entre la pensée négative... Et les mots que je vais me donner, bah, au début, il sera important, parce que je vais devoir me rendre compte que, ah ouais, merde, j'ai raté mon plaquage. Je suis en train de me dire, t'es vraiment nul, t'y arrives pas. Ça, je dois le conscientiser, donc au début, c'est long. Et puis, je me dis, attends, on a trahi le discours interne, il faut que je me dise ça et ça. Et donc, ça prend quelques secondes, mais c'est long, quelques secondes. Et puis, bah, au fur et à mesure de le travailler, en fait, je rate mon plaquage, et puis je me dis de plus en plus rapidement les mots de discours interne, qui vont me permettre de très rapidement ne pas m'accrocher à cette pensée négative, mais au contraire, bah, rester dans le positif et donc changer un petit peu ma manière de voir les choses aussi. Bah, rater un plaquage, c'est pas, ça peut être dramatique si on est à 3 minutes de la fin, qu'on prend un essai de la gagne, etc. Mais je veux dire, on peut toujours relativiser et essayer de trouver du positif là-dedans. Et de toute manière, avoir ce discours interne est hyper important. Et il se prépare à l'avance. Je ne l'invente pas le jour du match. C'est un petit peu comme ta routine. Bah, c'est ça, quoi. Et on a le même phénomène. C'est-à-dire que je peux très vite m'habituer à certains mots qui ne vont plus évoquer des choses en moi et qui ne vont plus avoir le même sens. Si tu te répètes 50 fois là, un mot dans ta tête, au bout d'un moment, il perd son sens, tu vois. Et donc, c'est un peu la même chose. Je travaille avec certains mots, et puis bah, au bout d'un moment, si je sens que ça n'a plus le même effet, plus la même efficacité, bah, faut peut-être que j'en change et que je trouve d'autres mots qui vont me permettre de continuer à garder ma confiance en moi, être encore combatif, etc. quoi.
Et ça, là, on parle d'une action sur le terrain, mais l'idée, c'était avant de monter sur le terrain, ouais, mais avant, ça fonctionne aussi.
Ouais, avant, tu vas travailler sur, par exemple, du discours interne de concentration ou de confiance en soi. Ça pourrait être du discours interne de comment dire, pour se dynamiser. Et puis on peut surtout lier ça, alors là c'est encore un autre outil, mais qui en fait t'as des grands outils qui sont bien distincts, mais on, en séance on essaye toujours de mélanger plusieurs choses parce qu'on va se mettre aussi des routines et donc on va mélanger plusieurs choses. C'est l'imagerie mentale, le fait de pouvoir, si t'as un mec qui a pas suffisamment confiance ou qui a envie de se donner plus de confiance avant de monter sur le terrain, il va peut-être déjà respirer, alors peut pas faire l'exercice 3-6-5 avec l'application, etc. Hein. Il va adapter sa respiration, il va se concentrer là-dessus, puis petit à petit, il va se dire des mots « tu sais le faire, tranquille, comme à l'entraînement, enfin voilà, sois confiant, etc. » Et pourquoi pas visualiser des actions réussies, alors si c'est un mec qui est pas sûr au plaquage, de visualiser des plaquages, des gros plaquages qu'il aurait mis, de visualiser des compétitions aussi de manière générale qui ont été avec de très bons résultats, tu soulèves une coupe avec ton équipe, etc. Mm-hmm. Et de vraiment essayer de ressentir cette puissance peut-être que tu avais, cette fierté, et c'est un travail qui peut se faire dans ces quelques minutes avant de monter, où généralement, soit tu es en train de rien faire et tu te laisses envahir par le stress, la pression, la boule au ventre, etc. Soit tu mets en place des actions qui vont pas laisser la place à ces différentes choses. Quoi.
Ok, ouais. C'est intéressant déjà. C'est concret, je veux dire.
C'est concret.
Ouais. C'est difficile dans le sens où c'est pas facile de le faire tout seul.
Non, mais c'est un peu... Tu vois, tu pourrais essayer de le faire tout seul, mais c'est un peu comme un mec qui voudrait faire de la préparation physique.
Il va sûrement faire des bonnes choses sans le faire exprès, ouais. Et un peu beaucoup de mauvaises choses.
Ouais, et puis peut-être un peu mélangé, pas être en tout cas hyper efficace. Là où, quand t'es encadré, forcément, tu vas beaucoup plus rapidement dans les résultats et dans l'efficacité.
D'accord.
Mais encore une fois, t'as des mecs qui instinctivement le font.
Oui, y a beaucoup de choses dont tu parles. Je m'y retrouve dans le sens où je sais que je le fais. Mmh. Et j'ai pas dû avoir besoin que quelqu'un me le dise. C'est pas dans le sens où j'ai pas besoin. C'est, je pense que le corps humain, enfin la tête, fonctionne comme ça. La visualisation, moi je sais très bien que ça fonctionne super bien. Déjà, même en dehors de l'APM, juste visualiser la réalisation d'un geste, ça fonctionne super bien. Tu vois, par exemple, quand t'es blessé, juste imaginer encore faire ce geste, pas celui qui t'a blessé, mais faire des passes au rugby, juste imaginer de le faire, tu perds moins ta qualité technique, tu vois, parce que ton cerveau, il reste connecté à ton corps, même s'il n'y a pas la gestuelle qui est derrière. Mmh. Et je sais que la réussite d'un geste, d'un step hinté, par exemple, une accélération, ce genre de choses, faut le garder en tête, quoi. Et je sais qu'instinctivement, je le fais. Je m'imagine souvent... aller catcher une balle sur un ballon haut au rugby à 7, et donc ça reste beaucoup plus longtemps.
Ouais. Mais c'est un travail qui se fait en préparation mentale avec des sportifs blessés. C'est faire travailler en fait ces neurones miroirs où je vais simplement en visualisant le geste, en quelque sorte, je le travaille. Et donc avec des sportifs, on va être amené à travailler sur des gestes. Alors si c'est une blessure au bras, effectivement le geste de la passe, un tennisman, ça va être le geste de la frappe, etc. Pour maintenir un certain niveau et aussi pour la rééducation, c'est hyper important de continuer et de travailler sur la visualisation. Ça permet d'accélérer. Alors je sais pas si il y a de réels résultats d'études scientifiques qui le montrent, mais ce sont des choses que j'ai déjà lues dans des magazines scientifiques, c'est que ça, quelque part, ça accélère un petit peu le processus de rééducation de par ce fonctionnement des neurones.
Ça me semblerait pas impossible, quoi.
Ouais.
Okay. Et pour le dernier point, un dernier tip, ce serait plutôt un mix entre une question et un tip, mais le sujet, c'est après un match. Voilà, comment je fais le bilan, que ce soit une victoire, que ce soit une défaite, qu'est-ce que je peux faire facilement en tant que sportif, est-ce que c'est prendre un journal et noter ma performance, juger individuellement ma performance, comment rebondir donc d'une défaite si ça arrive?
Ça dépend ce que tu as déjà mis en place avant. On pourrait imaginer que si tu travailles sur la fixation des objectifs, après chaque perf, tu regardes un petit peu, ok, est-ce que l'objectif est atteint ou pas, S'il est atteint, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui a bien fonctionné. S'il n'est pas atteint, qu'est-ce que j'ai mis en place ou qu'est-ce que je n'ai pas mis en place et que j'aurais peut-être dû, parce que c'est quelque chose que j'avais travaillé avant, mais je n'ai pas réussi à l'appliquer. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est intéressant parce que ça te permet de refixer derrière des objectifs.
Mmh.
Les objectifs, c'est quand même un outil qui est hyper important. Tu demandes à 90% de la... enfin, tu demandes à tes sportifs quel est leur objectif. Il y a 90% des sportifs qui vont te répondre gagner. Or, gagner, c'est pas un objectif qui est hyper intéressant. On monte tous sur un terrain pour gagner, évidemment. Mais cet objectif de gagner, il induit de la pression, il induit des « il faut faire ça, je dois faire ça ». Et tout ça, ça induit de la pression. Et en fait, on en oublie les ingrédients de la gagne. Et en fait, dans tes objectifs, tu dois être concentré déjà sur ce qui t'est propre. C'est-à-dire que gagner, en fait, ça dépend aussi de l'adversaire, ça dépend de l'arbitre. Ça dépend du terrain, ça dépend du public. Peut-être qu'il y en a qui jouent vachement mieux quand il y a 500 supporters et d'autres quand il y en a 5000. Et donc, tu as plein de critères qui sont externes. Tu peux faire la meilleure performance de ta vie. Si l'équipe en face fait la meilleure perf de sa vie, en fait, tu peux perdre.
Ouais.
Et donc, l'idée de se fixer des objectifs, c'est se fixer des objectifs que je peux atteindre, moi, de par mes comportements. Et donc, après un match, faire le point sur ses objectifs et sur ses comportements que j'ai mis en place pour atteindre mes objectifs, qui sont évidemment tout en haut, on a gagné, mais en dessous, on a peut-être mon objectif pour gagner. Je sais qu'il faut que je sois confiant, je sais qu'il faut que je réussisse, 90% de mes pénalités, tu vois, ce genre de truc. Et ensuite, mes objectifs, ça, c'est encore trop vague. Être confiant, on ne sait pas trop ce que je dois mettre en place. Et donc, c'est des objectifs qu'on appelle de processus. Et donc, là, on est vraiment sur des comportements. Qu'est-ce que je mets en place pour être confiant? Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre un certain niveau de transformation? Qu'est-ce que je mets en place pour être agressif, tu vois.
Mmh.
Et donc là, on peut avoir tous ces outils qu'on met en place en préparation mentale, le discours interne pour être agressif. Si tu mets deux combattants de MMA et ils ont le même niveau globalement, et t'en as un qui se dit oh, il a l'air fort en face, et celui d'en face qui se dit je vais le bouffer. Il y a de grandes chances que celui qui se dit « je vais le bouffer » soit ait un engagement physique, en tout cas, qui est beaucoup plus important que l'autre. Et donc, je vais travailler sur le discours interne d'agressivité pour être agressif, tu vois. Et donc, on va venir apporter tous ces outils. Et donc, mon objectif en montant sur le terrain, c'est pas gagner, c'est travailler mon discours interne. Donc, me rappeler que, OK, si je fais ça, si je me dis « bouffe-le »,
ma performance devrait être meilleure, quoi.
Je vais atteindre être agressif, et si j'atteins être agressif, je renforce grandement mes chances de gagner.
Mmh.
Donc à la fin du match, je regarde qu'est-ce que j'ai réussi à mettre en place ou pas, quel ingrédient je peux changer, etc. Et donc je vais parvenir à aller à la gagne. Maintenant, il y a plein d'autres trucs. Tu pourrais avoir un journal de mes émotions, de mes frustrations, un truc. Il y a plein d'outils. Et je crois que n'importe qui pourrait écrire.
Je le conseille souvent de noter, tu vois, parce que ça te permet aussi de revenir un peu en arrière et de dire il y a 2 mois et demi, en fait, même si je performe toujours pas, j'avais ces sensations-là ou ces émotions-là pendant une performance.
Ouais.
Et maintenant, je les ai plus. Donc ça, c'est déjà avancé, quoi.
Ce qui est important, encore une fois, c'est le sens que je donne à ce que je vais noter et qu'est-ce que j'en fais. Si c'est noté pour noter, est-ce que c'est intéressant? Derrière, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai noté? Et c'est là-dessus qu'on peut travailler en séance aussi.
Mm-hmm.
C'est de chercher le sens de quoi j'ai besoin. Tu vois, est-ce que c'est utile pour moi de noter mes émotions, mes frustrations, ce que j'ai ressenti pendant le match? Si j'en ai pas besoin, on va peut-être travailler sur d'autres choses. Ça dépend un petit peu de chaque sportif, quoi.
J'espère que ça aide les gens qui nous écoutent.
On a été un peu plus dans le concret. C'est difficile d'être
totalement
concret,
ouais.
Parce que c'est individuel. Et en même temps, c'est des choses que, en plus, certains mettent en place de manière instinctive. Donc, si ça peut un peu réorienter leur procédé, pourquoi pas. Et oui, après, pour aller plus loin, c'est toujours plus intéressant de se faire accompagner en séance.
Ma dernière question pour terminer ça, c'était qu'est-ce que tu penses en fait de l'ouverture finalement du sujet de la santé mentale des sportifs ? Moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus chez les hommes que ça apparaît.
T'as de plus en plus de contraintes, je pense, au niveau sportif, avec la professionnalisation. Il y a des attentes très importantes. Il y a le marché aussi, ce joueur ne convient plus, etc. Donc il y a une réelle pression. T'écoutes les gens dans le quotidien qui comprennent pas qu'au foot on puisse gagner autant d'argent, etc. Mais cet argent, en fait, c'est une compensation d'une pression mentale qui est énorme.
C'est marrant parce que j'en parlais avec MG. Bon, elle joue pas au foot, mais rugby à 7, elles ont un bon niveau, elles pratiquent beaucoup. Et je pense que les gens, il y a beaucoup de gens qui ont certains discours. Et je pense, en plus du fait de devoir s'entraîner, ok, elles font le tour du monde, elles vont dans des pays magnifiques. Les gens oublient aussi que toute la semaine, tu as des entraînements qui sont difficiles, donc qui pèsent sur la tête parce que tu sais que le vendredi, tu vas encore être en galère et que le samedi, tu as encore entraînement. Que au niveau vie sociale, tu dois faire des choix qui sont pas toujours simples, mais tu sais pourquoi tu les fais. Mais même si tu choisis de les faire, c'est pas toujours simple. Et tu as la pression des objectifs. Ouais. Parce que sans le vouloir, les instances mettent une pression en disant « Nous, l'objectif, c'est d'aller au JO. » Et alors, quand on ne l'atteint pas, on est là « Ah, on n'y arrive pas, ça ne sert à rien. » Sauf que les JO, c'est le plus gros objectif. Donc déjà, on met quand même une pression à ces personnes-là. Et puis derrière, il y a d'autres équipes qui ont le même objectif. Et puis quand on va en compétition, il y a plein de choses qui se passent. Et oui, c'est une vie quand même... de sportif, c'est génial, mais il y a une pression énorme toute la semaine qu'on est en stage parce qu'on croise les autres équipes, parce qu'on n'est pas en vacances, on se repose, oui, on s'amuse et heureusement, mais qu'avant chaque match, tu dois ton cœur qui monte à du 190 parce que tu es en stress, puis ça redescend, puis ça remonte, puis ça redescend, comme ça toute une semaine. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que c'est pas juste entraîner et jouer et qu'il y a toute cette partie là qui est hyper lourde et que tout l'argent du monde pourrait jamais nettoyer, on va dire. Je sais pas comment je peux formuler ma phrase, mais c'est pas parce que t'es payé beaucoup ou pas que c'est facile, quoi.
Ouais, et effectivement, la santé mentale, ça se soigne pas avec de l'argent. Donc toute cette pression, ces frustrations, t'as aussi, t'as des mauvaises performances, ta confiance en soi, elle baisse, le stress, il augmente, et tout ça. Alors tu remets dans un milieu professionnel classique. Une mauvaise confiance en soi et beaucoup de stress, ça mène les gens à des burn-out. En fait, dans le milieu du sport, c'est pareil. Alors, le burn-out est peut-être pas encore très présent, mais quand tu regardes la pression qu'on met sur les athlètes, effectivement, tu peux y arriver. Et puis, il y a aussi la dépression après carrière qui est super importante. Et là, c'est dramatique pour énormément de sportifs qui n'arrivent pas à retrouver ce qu'ils ont pu vivre pendant leur carrière. Et t'as des sportifs qui sombrent, t'en as d'autres qui arrivent à se reconvertir, à trouver du plaisir autrement. Mais effectivement, la santé mentale, c'est un sujet très important. Alors là, moi, je vais peut-être pas m'aventurer dans ce domaine-là parce que je suis pas psychologue clinicien. Et donc, l'accompagnement en santé mentale, je crois que c'est ma limite. Maintenant, dans le bien-être, dans trouver du plaisir, etc., ça reste dans le dans mes cordes, et c'est vrai que c'est important. Et là où le sportif ne trouverait plus de plaisir parce que submergé par la pression, on va essayer de travailler sur la pression. Mais effectivement, si mes ressources sont pas suffisantes pour répondre aux exigences et aux contraintes de la situation, ça peut mener à des situations qui sont très compliquées à gérer.
Ouais, ok.
Ça fait partie des qualités d'un sportif et de toute personne qui vise à performer. Le mental, c'est... on est un humain.
C'est quoi pour toi, alors, être fort mentalement ?
Ça veut rien dire.
Ça, je pense, voilà, ça. Tu sais, il y a des gens, je pense que j'en ai déjà discuté avec d'autres personnes, d'être fort mentalement, on imagine, c'est pouvoir traverser un mur, quoi, tu vois, avec sa tête. Ouais. Genre en mode, rien ne me touche. Alors, je pense pas que ce soit vrai. Il y a des gens qui réagissent moins, que ça touche moins ou qu'ils ont des astuces pour eux-mêmes se détacher.
On pourrait se dire qu'il y a des sportifs qui ont plus de ressources internes, des facilités et ben voilà, c'est inné et ils n'ont pas eu besoin de travailler dessus. D'autres sportifs qui ont moins de ressources. C'est là que quelque part, les coachs, ou on va dire lui, il est fort mentalement et lui, il est faible. Moi, j'aime pas ce truc de fort, faible. En fait, t'as pas soit toutes les habiletés mentales sont hyper élevées ou alors elles sont toutes faibles. T'en as qui sont plus forts dans certaines choses, d'autres dans d'autres choses. Et donc, moi, j'aime pas comparer les sportifs entre eux. Les résultats, par exemple, qu'on a dans les questionnaires, ça me sert juste de pouvoir observer
les tendances
et les habiletés qui seraient moins élevées que les autres, mais par rapport à ce sportif-là.
Ouais.
Et j'aime pas comparer. Et j'aime pas dire non plus fort ou faible mentalement. Par contre, effectivement, il y en a qui ont plus de ressources et on va travailler sur leurs faiblesses, parce que même si j'ai plus de ressources, bah, j'ai des faiblesses aussi.
C'est juste que les gens fonctionnent différemment.
Les gens fonctionnent différemment. Et puis, je vais avoir des gens qui seront très agressifs et très engagés, du coup, physiquement, mais qui vont peut-être avoir une gestion du stress qui est catastrophique, ou une gestion des émotions qui est catastrophique. Parce que comme ils sont hyper investis, en fait, la moindre frustration, la moindre erreur va les faire exploser, souffler, râler sur le partenaire ou sur l'arbitre. Et donc, voilà, je crois que chacun a ses forces et ses faiblesses.
Mmh. Donc, il n'y a pas de force mentale.
Il y a des ressources. Il y a des ressources mentales.
Il y a des ressources mentales.
Il faut sortir l'idée que la préparation mentale, c'est pour les faibles, puisqu'il n'y a pas de faibles. Il y en a qui ont plus de facilité dans certaines choses et d'autres dans d'autres choses. Et donc, si je veux performer, effectivement, je ne dois pas hésiter à me faire aider, rechercher. Alors, parfois, c'est du bouche à oreille, c'est des connaissances, c'est... Voilà, de faire la démarche, ça coûte rien de faire un call pour prendre des informations et
tu fais ça, si toi. Déjà,
ouais, systématiquement, les demandes, j'appelle pour voir un peu plus de précision et puis d'expliquer la démarche, etc., de rassurer, répondre à toutes les questions. Ça m'arrive aussi de rencontrer des personnes pendant une demi-heure parce qu'il y a des incertitudes, il y a des questionnements. Et puis on voit, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on ne le fait pas. Et voilà, ça c'est propre à chacun. Il y en a qui n'ont pas besoin d'être rassurés, ils vont se lancer directement. Et puis ceux qui ont besoin d'être rassurés, moi je prends toujours le temps, parfois même jusqu'à un rendez-vous que je ne fais pas payer et qui permet de lever les doutes, d'échanger, de donner des informations.
Okay. Mais je vous remercie à tous pour votre écoute. Moi, je te remercie surtout toi, Thomas, pour le temps accordé, pour les connaissances partagées, pour les astuces données. C'était plutôt intéressant. J'ai même l'impression qu'on n'a pas pu aller aussi profondément qu'on aurait voulu. Mais bon, ça, j'imagine, chaque sujet a son lot de questionnements. Peut-être, pourquoi pas, un épisode 2 si celui-là fonctionne bien. N'hésitez pas à contacter Thomas si vous avez besoin de quelque chose, besoin d'un suivi, si vous avez des questions, si un jour vous êtes senti mal dans votre sport ou dans votre pratique et que vous vous êtes demandé « Ah, est-ce que je ne devrais pas voir quelqu'un ?» et que vous ne saviez pas qui aller voir. Vous pouvez venir de ma part, par exemple. Vous dites « Je viens de Belgium Performance ». Il saura d'office qui c'est. Et donc, je mettrai les informations en lien dans la bio. Vous pouvez me les demander. C'est plutôt par mail ou par WhatsApp ?
Sur mon site internet, il y a un petit questionnaire.
Je mettrai son site internet. T'as Instagram ou un Instagram professionnel
aussi, ouais.
Que tu utilises encore ? Voilà, ouais. C'est ça. Vous aurez toutes les infos. Thomas, merci beaucoup.
Merci Gaspard et merci à tous.
Ciao. À bientôt pour le prochain épisode de La Discu.